Madame Marie-France Muller, à qui je laisse la parole.
Bonjour. Donc, il est question aujourd'hui d'affirmation de soi. C'est un sujet un peu présomptueux pour être traité simplement en 50 minutes, vous vous en doutez. Donc, nous allons peut-être aborder les choses d'une manière un petit peu différente de ce que j'ai pu écrire. C'est là tout l'intérêt aussi. Qu'est-ce que c'est l'affirmation de soi ? C'est intéressant, un minimum d'étymologie. Hein. Il y a ferme dans affirmation. Et il y a soi, être fermement en soi. C'est une définition un peu différente que l'on pourrait donner aussi à cette idée-là. Être ferme en soi, ça pose autre question. L'intérêt, c'est de se poser des questions, beaucoup plus qu'avoir des réponses. Les réponses, elles viennent ensuite. Et parmi les bonnes questions, bien sûr, il y a soi, c'est quoi ? Moi, c'est qui ? Que suis-je ? Qui suis-je ? Question éternelle. Hein, sur le temple de Delphes, c'était déjà écrit depuis l'Antiquité. Je pense qu'il ne faisait déjà que répéter quelque chose qui se disait encore bien avant. Donc, les problèmes relatifs à l'affirmation de soi posent déjà le problème de moi, moi par rapport aux autres, moi par rapport à moi-même. En général, toutes les personnes qui vous diront « j'ai des problèmes à m'affirmer, j'ai des problèmes à être moi-même, je ne suis pas en grand rapport d'estime avec moi », en fait, vous diront, viendront en premier temps vous voir pour vous dire « j'ai des problèmes avec les autres ». Je suis timide, je manque de confiance en moi, je me sens très mal à partir du moment où il y a d'autres personnes autour de moi, ou bien j'ai beaucoup de difficultés à faire valoir mon point de vue. Si je suis obligée de prendre la parole lors d'une réunion professionnelle ou autre, j'ai envie de me rallier à l'opinion générale beaucoup plus qu'exprimer mon point de vue personnel. Et très souvent, je repars frustrée, je suis en colère contre moi-même, parce qu'en fait, je ne suis pas arrivée à exprimer ce que je voulais, ce que j'étais venue dire. Donc ça, ça fait partie des choses, rassurez-vous, que 90% disent avoir connu au moins une fois dans leur vie. Donc ça, c'est le côté rassurant quand on est un peu timide. Il y a une étude qui a été faite par la Sofres en 96, et dans laquelle, dans cette étude, entre autres, une question a été posée. Avez-vous déjà ressenti des blocages, de la timidité, une inhibition dans votre vie? Et 90% des gens ont répondu oui. Donc c'est le côté rassurant, on a tous expérimenté ça un jour ou l'autre, et plutôt plusieurs jours qu'un seul. Donc déjà, on n'est pas obligatoirement une bête de foire, c'est ce que quelqu'un m'a dit un jour, c'est pourquoi j'emploie le terme, parce qu'on est parfois inhibé, bloqué dans notre rapport avec autrui. Autre chose à voir, donc affirmation de soi, l'histoire du soi. Tout ça est question de personnalité. D'où vient le mot « personne » ? Vous vous souvenez, si vous avez fait un peu de grec, du terme « persona », latin, c'était latin, qui indiquait en l'occurrence, qui signifiait le masque que portaient les acteurs antiques dans le théâtre. Donc, vous savez, à cette époque-là, dans l'Antiquité, en général, les femmes ne jouaient pas de rôle. Donc, les acteurs étaient pour la plupart des hommes. Et c'était le masque qu'il portait qui indiquait s'il jouait le personnage d'un homme, d'une femme, de quelqu'un de jeune, de quelqu'un d'âgé, d'un serviteur, de l'empereur, ou je ne sais quoi. Et ce masque qui s'appelait persona avait aussi une autre signification, c'était personare, c'est-à-dire ce qui sonne au travers. Ça, c'est Olugel qui nous donnait cette signification, qui est assez intéressante, parce que bien sûr, à l'époque, les micros, ça n'existait pas. Et donc, pour se faire entendre dans un théâtre antique, avec tous les gradins et en général en plein air, il fallait une sorte de porte-voix. Et cette forme de porte-voix était incluse, en fait, dans le masque qui prenait tout le visage, d'où le terme de personare qui amplifie la voix. Alors, on a aussi une autre signification qui a été donnée. Tout ça est très intéressant sur le rapport avec la personne, avec notre personnalité, donc avec le moi que je suis censé affirmer. Si je veux affirmer quelque chose, le rendre ferme, encore faut-il savoir ce que c'est. Qui était, si vous voulez, de fil en aiguille, à partir de ce masque et de cette notion de résonateur, on en est arrivé aussi à appeler persona la figure de proue que les marins mettaient devant leur navire. Vous savez, ça pouvait être une belle déesse, ça pouvait être un cheval ailé, etc. Et donc, cette figure de proue était ce qu'on mettait en avant, ce qui servait en quelque sorte d'interface entre les marins et le monde extérieur. Ce qui fait que très souvent, cette figure de proue, lorsqu'il s'agissait entre autres de bateaux destinés à la guerre, était plutôt effrayante, puisque le but était de dire « moi, je suis le plus fort », et de rouler un petit peu des mécaniques, je dirais, par figure de proue interposée. Alors, quand on pense à ça, à cette étymologie, on se rend assez vite compte que le « moi », la personne, ce que j'habite, si on tient compte de l'idée jungienne du « soi », eh bien, en fait, le soi habite quelque chose qui est notre personnalité, qui est faite de plusieurs couches. Le moi est multiple, on le sait. Les bouddhistes tibétains vous diraient que nous sommes aussi des agrégats, ce qui donne bien la dimension de l'affaire. Et qu'en fait, l'acteur qui habite ce masque, eh bien, en premier lieu, manifeste au monde, avant tout le masque, la personne, la personnalité, en tant qu'enveloppe extérieure. Si on regarde les choses de cette façon, il est bien évident qu'on est amené à se poser la question, est-ce que je suis ma personne, ma personnalité, avec toutes ses composantes, ou est-ce que le moi, en moi, arrive à se manifester de façon relativement claire et pure ? Et à partir de ce genre de questionnement que l'on peut se poser à soi-même, parce que l'intérêt, c'est de voir dans quelle mesure on peut travailler sur soi, c'est ce qui me paraît important aussi à notre époque, en dehors de pathologies avérées, on peut faire pour soi beaucoup plus qu'on ne croit habituellement. Eh bien, se poser quelques bonnes questions de ce type va nous permettre aussi de déterminer dans quelle mesure notre rapport avec les autres, notre rapport avec l'extérieur, peut être influencé par la façon dont nous nous identifions plus ou moins à ces enveloppes, à notre personne, de la même façon que selon qu'on s'habille, si l'on est vraiment centré en soi-même, que l'on soit vêtu avec un jean et un vieux pull ou avec une robe du soir, c'est la même personne qui transparaît. Or, pour certains, c'est un petit test tout à fait premier. Eh bien, on ne se sent pas la même personne selon qu'on est en tenue de soirée ou selon qu'on est justement en tenue de jogging. On devrait se sentir la même personne. Même si on joue un rôle social, même si quelque chose est composé à cause des obligations de la vie en société, eh bien, ça n'est quand même pas la même chose. Donc, je reviens à l'affirmation de soi. Pour arriver à rendre ferme quelque chose qui est en rapport avec soi, encore faut-il avoir déterminé ce soi. Donc, s'être posé déjà quelques bonnes questions. Le rapport avec soi-même est beaucoup plus difficile que le rapport avec les autres. Très souvent, beaucoup de gens, en l'occurrence, se rendent compte, au bout d'années de problèmes dans leur vie, dans leur rapport extérieur avec les autres, que ce rapport n'est qu'en fait le reflet de quelque chose qui a été faussé dans leur rapport avec eux-mêmes. J'enfonce une porte ouverte de dire ça, mais l'intérêt de se le rappeler, c'est que cela permet de regarder en feedback ce qui nous arrive dans notre vie extérieure comme un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'intérêt n'est pas de se dire « j'ai un problème, ça va pas dans ma vie de couple, j'ai du mal à entrer en contact en société ». L'intérêt, c'est de se dire « tiens, c'est drôle, chaque fois que je m'adresse aux gens, c'est drôle, on me regarde avec un peu de suspicion. Je donne cet exemple parce qu'on me l'a posé récemment. Alors que je suis quelqu'un d'honnête, que ce que je dis correspond à la réalité, je ne suis jamais très bien reçu et j'ai toujours l'impression qu'en fait, on me regarde avec un doute, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, etc. Alors, au lieu de se plaindre de l'injustice du monde, c'est facile, c'est commun, c'est courant, l'intérêt dans ce cas-là, c'est d'arriver à prendre un tout petit peu de recul et de se dire qu'est-ce qui, dans mon attitude, pourrait bien générer ce genre de réaction chez les personnes que je rencontre. Alors, en général, on commence par être en colère, hein, même si on se pose la question. Quand même, c'est pas normal, enfin ça, flûte. Je connais un tel, il n'arrête pas de raconter des salades, et tout le monde gomme ça allègrement. Et en fait, quand on se pose la question, on se rend compte que le rapport avec soi-même est déjà faussé à la base. Se mentir à soi-même, c'est le seul mensonge, je dirais, qu'on ne peut jamais dissimuler. Si l'on se regarde soi-même de façon distordue, ça va transparaître par tous les pores de la peau, par toutes les attitudes. Et en général, ce genre de message est reçu 5 sur 5 par les personnes qui sont en face de nous, même si elles n'en ont pas franchement conscience. En général, elles n'en ont pas conscience. Donc, vous voyez, c'est déjà une façon d'aborder des difficultés en se posant quelques questions au lieu de se contenter d'être victime d'une situation abominablement injuste et qui fait que, alors qu'on est un être génial, on n'est absolument pas reconnu comme tel dans notre société. C'est bien connu, c'est quelque chose de très courant aussi. Donc ce rapport avec soi-même peut être faussé de mille manières. Il est bien évident que très souvent, ça prend son origine dans notre enfance, dans des événements qui ont pu être mal vécus, dans des situations où le rapport avec soi était distordu. On connaissait, par exemple, quand j'étais jeune, nous, c'était plutôt du genre oppressif. Si on était quelqu'un d'un petit peu libre dans sa tête, c'était assez mal vu, il fallait entrer dans un cadre, etc. Je dirais qu'on peut rencontrer le problème inverse à l'heure actuelle et qu'un manque de structure peut aussi bien fausser le rapport avec soi qu'un excès de structure. Donc, tout est là, en fait. Quel est le rapport que j'ai avec moi-même? Est-ce que j'ai confiance en moi? Il y a des grandes questions qu'il vaut mieux ne pas se poser de manière aussi directe. Se poser des questions du genre, est-ce que je m'aime? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai de l'estime pour moi? C'est quelque chose auquel il est très difficile de répondre. Il vaut beaucoup mieux commencer par faire un petit auto-bilan du genre, en quelles circonstances est-ce que j'ai vraiment tendance à manquer de confiance en moi? Là, on commence à toucher des choses plus concrètes qui vont nous permettre de faire un peu plus le tour de la question. Est-ce que je pense vraiment, qu'est-ce que je pense vraiment de moi? Mais on pose des questions précises. Quelles sont les qualités que je me reconnais? Il est interdit de dire aucune. Est-ce que j'apprécie ce que je suis? Il est interdit de dire non, mais on va essayer de trouver dans quel domaine on peut s'apprécier. Le bilan peut être aussi bien négatif dans le mode des carences. Je n'aime pas le mot défaut, parce que le mot défaut a une connotation péjorative, qui d'ailleurs ne correspond pas à son étymologie. Hein. Défaut, c'est un manque, c'est une carence. Le gros avantage d'une carence, c'est que c'est un trou, et qu'un trou, ça peut se combler. Alors qu'un défaut, dans le sens habituel de vise quelque chose de tordu et de tas, bon, là, on a tendance à dire « je suis comme ça, et là, je n'y peux pas grand-chose ». Donc, restons sur le terme de carence, c'est beaucoup plus positif. Donc, on peut faire un petit tour de ces carences, de ce qui manque, de ce qu'on n'a pas développé, et ça donne aussi directement un petit mode d'emploi de ce qu'il est possible de faire pour corriger la situation. Revenons à l'affirmation de soi. Quand on a fait déjà un petit questionnaire de ce genre, en général, il est préférable de le faire par écrit. Ça permet de laisser quelques traces et d'y réfléchir quelques temps, ce qui n'est pas inintéressant. Eh bien, on peut se poser une autre question. Qu'est-ce que c'est l'affirmation de soi? Donc, du moment où j'ai commencé à un petit peu regarder ce que je suis censé être. Alors, d'autres questions sont à se poser. Par exemple, j'ai mon voisin qui est toujours en train de pousser des hurlements dès qu'on n'est pas d'accord avec lui et qui vous dit « Ah, moi, je sais m'affirmer, il n'est pas question qu'on me marche sur les pieds, ils vont entendre ce qu'ils vont entendre. » Est-ce qu'à votre avis, c'est de l'affirmation de soi? C'est du pouvoir, c'est de l'emprise. Et il y a toutes sortes de situations de ce genre où on a tendance à confondre aisément agressivité, prise de pouvoir sur l'autre, emprise sur l'autre, avec « Ah, mais moi, je sais m'affirmer !» Simplement du genre « J'écrase les autres et du coup, il n'y a que moi qui suis debout. » Vous comprendrez qu'une fois encore, quand on a fait le tour de ce que n'est pas l'affirmation de soi, on comprend qu'en premier lieu, si on veut vraiment pouvoir être soi dans sa vie, eh bien, encore faut-il le reconnaître. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Il y a d'autres petites questions intéressantes à se poser. Par exemple, cette histoire de vêtements à laquelle j'ai fait allusion. C'est un petit truc très simple. Vous posez cette question à quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans. Très souvent, la personne, en général, quand on prend de l'âge, on commence déjà très naturellement à se situer un petit peu mieux avec soi-même, sauf quand on a de gros problèmes. La vie, déjà, est un bon éducateur et nous permet très souvent d'apprendre sur nous à fort par la force, si on ne le fait pas volontairement. Mais vous verrez que très souvent, quelqu'un de jeune vous dira qu'il est complètement différent selon les vêtements, la coiffure, etc., d'où l'importance actuelle de l'esthétique, etc. Alors bon, ça commence à s'aggraver avec la chirurgie esthétique qu'on pratique n'importe comment à n'importe quel âge, parce que là encore, le soin est escamoté derrière une apparence. Donc, bonne question. Si vous vous sentez vraiment, si on se sent vraiment différent selon l'apparence qu'on a, il y a un problème. J'ai rencontré il y a quelques mois, c'était lors d'une émission télévisée, une jeune femme dont le rêve était, elle avait 17 ans, tout le but de sa vie, toute l'organisation de sa vie visait à s'offrir suffisamment de chirurgie esthétique pour devenir le clone de Jennifer Lopez. Bon, elle avait 17 ans. Le pire dans tout ça, c'est que les parents étaient d'accord. Là, j'ai trouvé que c'était assez sérieux. Et il me disait, mais c'est normal de vouloir ressembler à quelqu'un qu'on admire. Alors, on a eu bien sûr quelques temps de conversation après hors antenne pour essayer de débroussailler un peu ça, parce que j'ai trouvé ça dramatique. Alors là, c'est quelque chose qui, effectivement, a tendance à devenir assez vite récurrent. Et on se rend compte à quel point, dans notre société du beaucoup extérieur, où aussi nous sommes obligés de vraiment vivre beaucoup plus avec les autres, le retrait est rendu plus difficile. Et si vous êtes quelqu'un qui a tendance à vivre un peu en retrait, on va très vite vous dire en plus que c'est pas normal. Hein, il n'y a qu'à voir les émissions de télé-réalité maintenant. À force de répétition, on va bientôt finir par considérer que si on ne supporte pas d'avoir une caméra dans sa salle de bain, c'est qu'on a un sacré problème. Bon, donc à force de nous montrer des gens heureux d'être filmés sous toutes les coutures pendant des mois et qui trouvent que c'est parfaitement normal et très bien, eh bien on finit par se dire que soi-même on n'est peut-être pas très normal si on le supporte difficilement. Hein, j'ai eu le problème récemment dans mon village de quelqu'un qui voulait ouvrir une fenêtre qui donnait, mais alors dans une maison mitoyenne pile, vraiment sur la cuisine, salle de séjour de ses voisins, mais à 2 mètres près. Et on m'a appelé un peu à la rescousse pour discuter du problème, bien que c'était pas très autorisé déjà. Et ce brave monsieur m'a dit, mais enfin, bon, je vois pas le problème, moi j'aime bien voir chez les autres. Et il m'a dit, avec tellement d'assurance, mais tout à fait à l'aise, mais pourquoi y aurait-il un problème? Et pourtant, en pleine campagne, je veux dire, dans un village du Tarn, hein, où il y a une maison par colline. Donc, vous voyez, justement, il était extrêmement frustré de cette situation. Mais il est certain que l'on ait tendance naturellement au retrait ou à l'expansivité, que l'on a un contact facile ou que l'on préfère entrer en rapport de façon plus lente et plus progressive, ça fait partie de ce qu'on est, de nos tendances, et ça n'a rien de pathologique selon que l'on se situe là-dedans. Mais quand on est dans ce contexte-là, les gens qui ont tendance au retrait ont peut-être aussi parfois tendance à s'en culpabiliser et à finir par se trouver pas trop normal. Donc il y a cet ensemble de questions à se poser par rapport à cette façon d'être. Savoir aussi, toujours dans cette étude Sofres récente, que quand même les Français mettent la peur de paraître en public, d'être en contact étroit ou de prendre la parole au troisième rang de leur terreur. Ça m'a étonné de lire ça. Ça vient juste après la peur des serpents et la peur du vide. L'étude m'a étonné, c'est une étude Sofres. Donc au troisième rang. Donc vous voyez qu'on est quand même très au fait de cette situation. Donc avant de chercher à s'affirmer et de dire je vais simplement prendre un cours d'affirmation de soi du genre je respire un grand coup et je fonce, parce qu'il y a des séminaires qui existent aussi de cette manière-là, en disant je respire, je maîtrise mon émotivité et j'arrive en forçant le passage, on arrive dans ce cas-là à s'exprimer, ce qui est déjà pas mal, et ça peut rendre de grands services. Mais ce n'est pas ça l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est arriver à se trouver soi-même, au moins en partie, c'est un travail de toute une vie. Bon, mais on peut déjà utiliser ce qu'on a. Arriver à se centrer suffisamment, ce qui a un énorme avantage, c'est qu'en toutes circonstances, on est disponible à soi-même, et ça, c'est quand même la plus grande sécurité qu'on puisse rencontrer. Et à partir de là, pouvoir entrer en contact par l'intermédiaire de nos divers personnages, de nos diverses personnalités. Elles sont généralement multiples pour nous tous, et c'est assez normal, mais en jouant. De la même façon, je dirais que l'acteur du théâtre antique pouvait alternativement changer de personnage et en jouer plusieurs même au cours de la même pièce de théâtre, mais il restait lui. Il était capable de jouer de ça, mais en étant centré. Et j'ai toujours trouvé que cette image était tellement représentative de notre vie et, je dirais, du jeu de la vie, dans lequel on peut jouer à tout ça. En ce moment, moi, je joue à la conférencière. Je ne joue pas à ça quand je suis chez moi, sur ma petite colline, avec mes chats. C'est différent. Mais à partir du moment où l'on en est conscient, on peut se sentir aussi bien isolé dans son coin à faire son travail comme on le désire que lorsqu'on est mis dans des situations inhabituelles selon ce qui peut se présenter. Et ça, c'est une sécurité dans la vie qui, je crois, est essentielle dans le monde où on est, où tout bouge à toute vitesse, où il faut s'adapter au quart de tour, où l'on peut perdre son travail d'un jour à l'autre, être obligé tout d'un coup de retomber sur ses pattes et de rebondir dans des situations inhabituelles. Si vous voulez, cette histoire de centrage, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à refaire ce livre, parce que c'est un livre que j'avais déjà écrit autrefois, mais que j'avais complètement refait, ça me semble vraiment essentiel. Et en l'occurrence, ça s'adresse, je dirais, à chacun d'entre nous. Parce que, justement, qui ne s'est pas laissé arrêter par un blocage à une occasion ou une autre, et connaître ses petits ressorts intérieurs, savoir vraiment ce qu'on est, sur quel terrain on marche, ce n'est pas se critiquer. Ça, c'est s'apprécier. S'apprécier dans le sens aussi de savoir s'évaluer. Hein, l'appréciation, ce n'est pas uniquement positif, c'est les deux choses, c'est voir exactement qui je suis, avec mes bons, mes moins bons côtés, comment je peux améliorer la situation, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ça fonctionne mieux. Et à partir de ce moment-là, je dirais que la thérapie personnelle, puisque c'est de ça dont je parle en ce moment, elle découle de source. Du moment où on a établi un petit bilan personnel, on voit avec beaucoup de bon sens, assez aisément, ce que l'on peut faire pour changer un petit peu la donne. Donc je serai aussi à votre disposition toute la journée si vous avez des questions plus précises à me poser, parce que c'est un sujet sur lequel, évidemment, on peut s'étendre très très longtemps. J'aimerais aussi tout à l'heure vous laisser la place à un certain nombre de questions, parce qu'on a beaucoup à discuter là-dessus, et comme effectivement je n'ai absolument pas suivi ce que j'avais prévu, ce qui est mon habitude, j'aimerais peut-être que l'on commence directement à poser quelques questions qui peuvent vous toucher plus particulièrement. Il est clair qu'on peut parler des causes du manque de confiance en soi, on peut parler du traitement, de la façon dont ça peut se passer, ce qu'on peut faire avec un enfant ou ne pas faire. Bah tiens, à propos d'enfants, j'ai un petit exemple à vous donner qui me vient à l'esprit et qui a, je dirais, motivé mon intérêt pour ce genre de sujet. J'étais étudiante, longtemps, et à cette époque-là, j'ai eu un poste d'enseignante en même temps. À cette époque-là, très souvent, on travaillait en même temps que nos études. Et j'avais dans une classe de 5e un gamin qui était vraiment le dernier de la classe, mais alors le radiateur multiplié par 10, et qui, de toute évidence, se prenait pour un total nul, et que les parents considéraient aussi bien comme nul. Ils étaient venus me voir en me disant, de toute façon, vous fatiguez pas, il manque totalement d'intelligence, il ne réfléchit pas, il ne pense pas, il n'a aucune possibilité. Et il traînait lamentablement de cette façon-là. Et moi, je n'avais pas eu l'impression, cet enfant n'avait aucun retard mental, n'avait aucun retard émotionnel, me paraissait devoir avoir la possibilité de prendre le train en marche. Et puis, comme j'étais pendant mes études de psycho, bien sûr, il est devenu un peu mon cobaye, j'ai honte, j'explique tout. Et en fait, j'avais mis en place un petit jeu avec le reste de la classe qui a consisté, ils ne l'ont pas su, je ne l'aurais pas dit, mais en fait, chaque fois, il était par exemple parfaitement nul en orthographe, et à l'époque, vous savez, on comptait les points en arrière, hein, c'est-à-dire qu'on enlevait tant de points pour tel genre de faute, un demi-point pour ci, 3 points pour un S, machin, etc. Et lui, en général, quand on faisait une dictée, il était facilement à moins 30. C'était à peu près dans ces zones-là. Et ce qu'on a fait, la première fois, au lieu d'avoir moins 30, il a eu moins 25, je l'ai félicité. Et on a continué ce jeu-là. Mais je lui ai dit, tu te rends compte, c'est génial. Là, tu as fait beaucoup moins de fautes que d'habitude. Et on a continué, je lui ai expliqué. Et en fait, à mon étonnement, mais absolu, c'est vraiment, il a déterminé beaucoup de mon avenir sans le savoir, ce gamin. Eh bien, à peu près en 3 mois, il est arrivé quand même à se faire des dictées avec un 10 sur 20. Ce qui était totalement, ce qui relevait du miracle. Et ce qui était amusant, c'est que le reste de la classe, assez vite, en fait, s'est mis à l'applaudir. Je me souviens du jour où il a atteint le zéro, et où toute la classe a éclaté en applaudissements. Vous savez, c'est quelque chose qui est assez touchant, ça. Tout simplement, pour avoir un peu remonté l'image de lui-même, qui était au degré en dessous de zéro, de la même façon que son orthographe, et simplement lui avoir expliqué que si c'était possible, qu'il pouvait, et que quelqu'un au moins croyait en lui et en la possibilité d'améliorer la donne. Or ça, cet exemple-là, il est extrême. Mais nous, notre façon de nous comporter avec nous-mêmes, notre façon d'être notre pire ennemi les trois quarts du temps, eh bien, elle tient bien souvent à des petits détails qui nous sont arrivés pendant notre enfance, où une remarque nous a été faite qui pouvait être très blessante et qui est restée comme une blessure ouverte, qui n'était pas obligatoirement quelque chose de grave, et sur lequel on a ancré le « je ne vaux rien, je suis nul en ceci, je ne suis pas capable de, je n'arriverai jamais, donc je n'essaie pas. Si je sais que je suis nul, je ne vais même pas risquer d'oser m'affirmer. » Parce que dans le titre de ma conférence, il y avait aussi oser. Or, pour oser prendre des risques, et des risques, je dirais, réfléchis, des risques constructifs, oser, ce n'est pas pour moi participer à Fear Factor et se lancer dans le vide n'importe comment. Oser, c'est prendre un risque réfléchi, se dire, là, j'ai telle et telle situation, j'ai tel et tel outil sur lequel m'appuyer, j'ai telle et telle possibilité, eh bien, je vais essayer, et si j'échoue, comme disait ma grand-mère, c'est pas grave, le monde ne va pas s'arrêter pour autant. Je peux vous dire qu'une réflexion comme ça qu'on vous fait quand vous avez des examens et que vous êtes du genre à avoir peur, eh bien tout d'un coup ça vous fait pousser un grand soupir de soulagement et ça vous donne 10 fois plus de chances de réussir. Ça, ce sont des exemples très concrets, très ordinaires, mais il faut aussi essayer de voir à l'intérieur de nous-mêmes toutes ces petites amorces sur lesquelles notre écureuil intérieur va se jeter pour nous répéter pendant des heures dans des situations stressantes. Tu ne peux pas, et on t'a dit ça parce que, et puis on ne t'a pas dit ça, donc, etc. Combien de fois, par exemple, prenons un exemple concret. Quelqu'un veut demander une augmentation à son patron. Il s'est fait la leçon. Il a bien vérifié que cette augmentation était méritée, que c'était justifié, il s'est exprimé sa demande déjà à l'avance, et puis au moment d'aller demander cette augmentation, le mouvement s'arrête, inhibition, hein, démobilisation dans certains cas, il tourne les talons, il y renonce. Bien, que s'est-il passé dans ce cas-là? Bien sûr, le risque était pourtant réfléchi, osé était décidé, l'inhibition a eu lieu, parce qu'il s'est fait tout un cinéma intérieur sur l'accueil qu'il allait recevoir. Il va me dire non. Et alors? Ça n'a jamais tué quelqu'un d'essuyer un refus. Ça risque de me porter préjudice. Et pourquoi donc? Si la demande était justifiée, il n'y a pas de problème. Il va m'en vouloir. Tiens donc, on se met à projeter des intentions à quelqu'un qui n'a rien manifesté de tel, etc. Donc, cette façon aussi que l'on a parfois de se dire « j'ai rencontré telle personne, mais pourquoi il ne m'a pas salué comme d'habitude? J'ai dû faire quelque chose de mal, ça y est, je suis sur le siège éjectable, je vais être viré le mois prochain, je sais qu'il va y avoir des restrictions de personnel, etc. » Alors que peut-être simplement on ne se demande pas si la personne en question avait un début de grippe, s'était disputé avec sa femme le matin avant de partir, ou des choses de ce genre. Donc, si vous voulez, ce cinéma intérieur, ce dialogue que l'on a tendance à ne pas maîtriser et que, bien sûr, on laisse en général joyeusement se dérouler sur les points faibles, sur les endroits qui font mal, bien évidemment, c'est là aussi pour nous attirer l'attention sur des choses que l'on n'a pas tendance à regarder spontanément. Eh bien, commencer par y prêter attention lorsque ça commence à se dérouler, à s'arrêter, prendre une grande respiration, s'écouter un peu soi-même, prendre un tout petit poil de recul pour devenir l'observateur et se dédoubler en quelque sorte, et regarder, l'observer, dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est mis en danger en moi au point que ça me fait dérouler tout ce cinéma. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi j'interprète ça comme ça? Qu'est-ce qui en moi manque à ce point de centrage, se sent mis en insécurité? Donc ça, c'est un tout petit jeu que l'on peut faire assez rapidement, et si on le répète, on arrive en fait très souvent à se rendre compte du mécanisme qui a été mis en jeu et qui en général nous porte préjudice, parce que bien évidemment quand on se laisse aller à ce genre d'attitude, notre abord des autres va en être faussé, toutes ces distorsions, vous savez, il y a notre image, on avait un jouet autrefois, je ne sais pas si ça existe encore, des sortes de petites poupées en bois qui étaient lestées au fond, et vous savez, les petits, on donnait ça aux tout petits qui s'amusaient à les faire basculer, et automatiquement, comme c'était bien lesté au fond, ça se remettait droit. Bon, ça, je dirais que c'est une très bonne image du centrage. Quand on s'est accepté soi-même, qu'on s'est admis comme le meilleur ami qu'on puisse jamais avoir, avec les défauts qu'il n'en a pas, avec les carences que l'on peut donc combler. Mais imaginez la même petite poupée, dans, à l'usine, ils se sont trompés, et le petit lest de plomb, ils l'ont mis sur le côté. Bon, ben dans ce cas-là, lorsque le mouvement va s'arrêter, la poupée va s'arrêter décentrée. Et ça, c'est aussi une image de toutes nos distorsions, quelles soient notre fait, celle de d'événements extérieurs, notre tendance qui a été aggravée par une éducation, ceci, cela ou tout ce qu'on veut. Mais en fait, c'est ça qui se passe. Il y a une distorsion. Et cette distorsion, c'est cela justement qui est perceptible par les autres et qui font que l'image qui nous est renvoyée dans ce cas-là n'est pas du tout celle qu'on veut. Et c'est pourquoi, comme je disais tout à l'heure, on en arrive à crier à l'injustice et à se dire qu'un mauvais sort s'acharne sur nous et qu'on est des incompris, etc. Avec en plus en arrière-fond, il y a quand même toujours un petit poil de lucidité, qu'après tout, si on n'est pas accepté, c'est qu'on est inacceptable. Si on est... D'abord, je le savais bien, j'ai toujours su que j'étais nul, et c'est reparti pour un tour. J'exagère à peine, je pense que là, tous, un jour ou l'autre, on se reconnaît dans ce type de schéma. Donc, vous voyez que de ce genre de petites comparaisons très simples, de ce genre de prise de conscience toute simple que l'on peut faire au quotidien, eh bien, on peut arriver à se faire un petit auto-bilan personnel qui n'est pas inutile, qui n'est pas inutile. Si l'on constate que la situation est trop sérieuse, il n'est pas interdit de se faire aider, c'est une évidence. Mais il y a tellement de situations déjà ordinaires où on peut déjà approcher le travail sur soi. Et puis, si on se fait aider par un thérapeute et qu'en même temps, on s'aide soi-même, ça va deux fois plus vite, c'est beaucoup plus positif, et tout est gagnant, et on devient l'acteur de sa destinée, au lieu d'encore une fois, comme c'est trop la mode à mon gré, dans notre société, on essaie de se faire prendre en charge. C'est aussi quelque chose qui est très paralysant. Et du moment où on devient l'acteur de sa destinée, il est clair que quand on en fait l'expérience, même les coups durs touchent moins. Qui dans sa vie n'a pas de coups durs, même de très graves et même de très répétés. Or, ce que l'on constate, là, c'est une étude qui a été faite dans une université américaine et qui était fort intéressante sur le dynamisme. Ils ont étudié pendant quelques années les personnes qui arrivent à se tirer d'affaires de situations dramatiques et à reconstruire leur vie avec relativement d'aisance. Et ils ont mis dans cette étude tous les cas de personnes qui ont tendance à guérir, entre guillemets, spontanément, de maladies graves. Donc sans raison médical valable à une guérison là où d'autres seraient morts depuis belle lurette. Et ce qui est très intéressant, c'est que les conclusions qui ont été tirées dans les deux situations sont les mêmes. Ce sont toujours des personnes qui possèdent un bon dynamisme. Ce sont en général des créateurs, des gens qui en veulent, des gens qui foncent aussi dans la vie. Foncer dans la vie ne veut pas dire être uniquement tout extérieur. Hein. C'est-à-dire des personnes qui, lorsqu'elles commencent quelque chose, vont au bout et y mettent leur tripe. Ça, c'est la première caractéristique. Ce sont aussi des personnes, en général, très conscientes d'elles-mêmes, qui se regardent avec relativement d'objectivité et qui s'acceptent elles-mêmes. Ça faisait partie du résultat de l'étude. Et curieusement, cette conscience de soi, curieusement est un mot de trop, je l'efface, cette conscience de soi, en fait, permet apparemment de glisser au travers des difficultés avec plus d'aisance. Le coup, on le prend plein la figure. Il y a des coups très durs et des coups même répétés. Mais ce sont des gens qui ont plus que d'autres tendance à se remettre debout et à recommencer. En regardant beaucoup plus l'opportunité d'une compréhension neuve qui est offerte par la difficulté, que la sensation de victime, j'ai vraiment pas de chance. C'est la quatrième fois que j'ai un accident de voiture cette année. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Et c'est quelque chose sur lequel je pense que, quand on en prend conscience, on peut commencer doucement à modifier toutes sortes de paramètres dans sa vie, des petits. Ce sont les petites choses qui nous permettent doucement d'aller vers notre soi, d'aller vers notre vrai moi, et de lui permettre de se manifester. Quand on commence à lui permettre de se manifester, on se rend compte qu'il a plein de possibilités. Ce qui fait que dans les tout premiers petits exercices de ce petit bilan dont je vous parlais tout à l'heure, il y a quelque chose de très important à faire, c'est de prendre déjà plusieurs jours pour faire une liste un petit peu exhaustive de tout ce qu'on a réussi dans sa vie. Les gens qui vous disent « moi je suis un raté, je suis un nul », quand vous les mettez devant ce travail, mais pas pendant une heure, mais pendant une période donnée assez longue, apprennent doucement, parce qu'on les force un peu à le faire, qu'ils ont réussi plein de choses, vraiment plein de choses. Et s'appuyer sur toutes ces petites réussites, c'est quelque chose de très constructif et de très reconstructeur de notre personnalité, qui nous permet de nous recentrer et de déterminer les outils que nous avons en main pour vivre. Parce qu'il faut quand même bien se dire que moi, je considère qu'on est génétiquement programmé pour réussir sa vie. Quand on voit d'où est venu l'être humain, pensez simplement que nous sommes tous cousins, issus de gens, sinon on ne serait pas là, issus de gens qui ont vécu à travers d'époques glaciaires, dans des époques très lointaines où la simple survie était remise en cause à chaque seconde, où le simple fait de manger de temps en temps n'était pas quelque chose d'évident. Et je ne parle pas de tous les événements dramatiques qu'a connu l'humanité au travers des millénaires. Or, notre potentiel génétique est le même. Les études actuelles le prouvent aussi. Nous sommes programmés pour être beaucoup plus solides qu'on a tendance à le penser de soi-même. On est programmés pour passer au travers d'événements beaucoup plus dramatiques que ce qui nous paraît une vraie catastrophe. Et les gens qui, à l'heure actuelle, vivent, quand je vois certains moines tibétains que j'ai pu rencontrer, parce que j'habite à côté d'un centre chez moi, un, entre autres, auquel je pense, qui a passé 20 ans dans des prisons chinoises, et Dieu sait que ce n'est pas une sinécure, c'est pas la télé avec un petit déjeuner tous les matins, qui a été torturé, qui a vu toute sa famille massacrée, etc., et qui est un homme qui rayonne, mais d'un tel équilibre, d'une telle paix et d'une telle joie, quand vous rencontrez une fois dans votre vie quelqu'un comme ça, je vous jure que ça vous aide à relativiser beaucoup de choses dans la vôtre. Et surtout, c'est la preuve vivante que nous avons des capacités qui vont bien au-delà de ce que nous avons tendance à penser. Et ça, je crois que cette simple prise de conscience en se donnant les petits outils pour nous permettre de le manifester, c'est quelque chose qui peut franchement nous aider dans la vie actuelle. Voilà, donc maintenant j'aimerais vous donner aussi un petit peu la parole. J'ai dérivé à mon habitude sur des sujets tout à fait différents. Posez-moi vos questions et je suis à votre disposition, quoi qu'il en soit, toute la journée.
Merci. Michel Vertalier, j'ai beaucoup apprécié votre conférence. Je voudrais faire trois brèves remarques. La première, au niveau de la définition de l'affirmation de soi, oser dire, oser affirmer ce que l'on pense, ce que l'on ressent, pourrait-on ajouter dans le respect de l'autre ?
Tout à fait.
Je pense que ça en fait partie.
Tout à fait. Si l'on est centré en soi, ça n'est plus l'emprise, ni l'agressivité, ni le écrase-toi que je m'y mette.
Voilà, ce qui correspond peut-être à la notion anglo-saxonne d'assertivité, qui correspond à l'affirmation. Deuxième remarque, et je ne l'avais jamais entendu dans les exposés sur l'affirmation de soi, l'utilité d'une psychothérapie personnelle pour aider à une démarche d'affirmation de soi, ça me paraît logique et très sain. Et un troisième petit détail par rapport à cette anecdote dont vous parliez à propos de votre petit patient et de ses dictées à l'école, cette notion de que tout le monde a connu, 5 fautes, 0, la notion de faute qui pourrait peut-être être remplacée par la notion d'erreur.
Tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous, totalement. Et là, tous les éducateurs, que ce soit les parents, les enseignants et toutes les personnes qui sont en rapport avec les petits, ont une importance plus grande sur l'avenir des enfants que parfois on imagine. Disons que ça ne se situe pas uniquement où on le pense habituellement. Mais il est clair qu'un enfant que l'on a élevé en l'encourageant... Attendez, je veux aussi l'opposé. Hein. Tout ça est dans la nuance. Mais là, c'est encore une question de bon sens. Hein. J'ai aussi vu des parents qui enveloppaient leurs enfants de louanges, tu es le meilleur, etc. Ça n'est pas du tout bon pour la future affirmation de soi. On va faire ou des petits tyrans, ou des gamins qui vont bien sûr un jour se casser la figure et se dire « Papa, maman m'ont menti, donc c'est de la fichesse, donc je suis beau. Ils m'ont dit que j'étais bien, mais c'est pas vrai, je suis nul, et c'est reparti pour un petit tour. » Mais il est clair que les enfants que l'on élève en soulignant beaucoup plus leur réussite que leurs échecs, c'est-à-dire en relativisant, tu as laissé tomber cette tasse, bah attends, tu n'as que 6 ans, c'est pas grave, fais attention la prochaine fois, fais comme ceci, comme cela, ça c'est de l'éducation. Et ça construit. Il ne faut pas mentir aux enfants sur ce qu'ils n'ont pas développé correctement. Mais encourager, mettre l'accent sur toutes les petites réussites au quotidien, c'est quelque chose qui construit un terrain solide pour un futur beaucoup plus harmonieux.
Oui, vous donniez un exemple où une personne échouée pour la quatrième fois. Donc, ce qui fait allusion à la compulsion de répétition, sachant que la compulsion de répétition s'étale sur la jouissance, quel lien faites-vous quand vous parlez pour un individu de faire un autobilan? Donc, quel lien faites-vous entre la possibilité de faire un autobilan personnel par rapport à la jouissance?
Disons que l'autobilan personnel, je parle là bien sûr de cas qui ne soient pas pathologiques. Quand on a vraiment affaire à quelqu'un qui est dans la pathologie, mon malheur, on a besoin de... C'est de la même façon qu'on peut soigner une grippe soi-même, qu'il est difficile de soigner des maladies graves tout seul. Donc c'est à peu près dans le même rapport. L'autobilan a toujours l'inconvénient, c'est bien connu, qu'on est à la fois l'observateur et l'observé, et que l'on est obligé d'apprendre à faire une petite distanciation par rapport à soi-même pour pouvoir s'observer. Bien sûr, on est avec un regard partisan, c'est beaucoup plus facile quand on a quelqu'un en face de soi et que l'on peut jouer avec ça. C'est très développé aux États-Unis, ce genre de technique, justement, que ce soit pas simplement par la technique de groupe de parole, mais il y a des groupes de travail sur soi qui sont assez intéressants, puisque les gens qui sont rassemblés à l'origine ne se connaissent pas, mais permettent d'avoir un effet feedback beaucoup plus immédiat, que ce soit par un jeu de rôle, par des mises en situation ou par du dialogue libre. On peut avoir librement l'impression de l'autre qui nous permet une réflexion, etc. Bon, ça ne se pratique pas couramment en Europe, bien que ce soit quand même quelque chose d'intéressant. Quand on parle d'autobilan, donc on sait qu'il a le côté relatif du « je suis l'acteur en même temps que le thérapeute », c'est un petit peu gênant. Par contre, à la pratique, et en dehors de, je dirais, cette idée de distanciation qui n'y est pas, sincèrement, on constate qu'on peut beaucoup. Ça, je l'ai constaté. Donc c'est ça qui m'a toujours intéressé, de pouvoir donner aussi des pistes pour pouvoir un peu apprendre à se gérer soi-même et être le maître de sa vie, ne pas uniquement dépendre de l'autre, qui n'empêche pas d'avoir aussi ce rapport avec l'autre en cas de besoin. Mais quand on a embarqué ce type de travail sur soi, l'intérêt est aussi que l'on va regarder le rapport avec l'autre aussi comme ce reflet qui va nous éclairer. Et donc, si vous voulez, dans ce cas-là, ça rajoute à la dimension. Ça ne se fait pas magiquement. Là, on parle rapidement de processus qui peuvent mettre des années à se mettre en place, dans certains cas. Ce que j'ai constaté personnellement, c'est que déjà, le simple fait d'aider quelqu'un à prendre conscience qu'il peut, que non seulement il peut, mais il a le droit. Très souvent, il y a cette forme d'interdit, je ne peux pas m'aider moi-même, il faut que je voie quelqu'un d'autre. On reprend son propre pouvoir. Simplement ça éclaire très souvent, spontanément, toutes sortes de processus et situations. Et ce qui fait que, sur un phénomène de répétition, comme celui dont vous parliez, 5 accidents dans l'année ou d'un échec répété, là, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir, ça m'est arrivé, quel plaisir, la jouissance dont vous parliez, bien sûr, quand on dit ça au début, attendez, j'ai eu 5 accidents de voiture, vous rigolez, le plaisir d'avoir un accident de voiture. Mais si on apprend la personne à sentir plus finement ce qui se passe en elle, elle va arriver à trouver ce qui en elle a un début de satisfaction de la situation, du genre, j'avais bien dit que j'avais pas de chance. Mais simplement, là, ça peut être l'ancrage de la jouissance. Et cette petite prise de conscience de ce petit point d'ancrage permet d'aller plus loin, et là, la thérapie personnelle peut aussi jouer. Donc, si vous voulez, ça reste valable. En fait, tout tient dans la prise de conscience de plus en plus fine. Et là aussi, le thérapeute peut guider, peut aider, peut amener. Mais moi, personnellement, j'amène beaucoup plus, c'est mon truc, tout simplement. J'aime bien que les gens travaillent sur eux-mêmes. Voilà, c'est ma dynamique personnelle, ça n'exclut nullement les autres.
Je rajouterais juste que si l'interrogation permet de lever des choses, il n'empêche que la jouissance reste inconsciente.
Elle reste tant qu'elle a besoin d'être là. Du moment où on a déterminé pourquoi il y a cette jouissance avec une répétition, du moment où on commence à voir quel est le message qui est inclus dedans, il n'y a plus de répétition. Parce que là, on reprend le recentrage. On n'a plus la nécessité de se créer l'accident. C'est personnellement ce que j'en pense. La tendance qui est manifestée à l'extérieur n'est que la projection de ce dont on n'a pas pris.
Bonjour. Est-ce que vous pourriez préciser, parce que j'ai l'impression qu'on confond beaucoup la timidité et la réserve à l'heure actuelle.
Tout à fait.
Et moi, moi j'ai l'impression que ce n'est pas du tout la même chose et on met ça dans le même...
Tout à fait, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de manque de confiance en soi, mais j'ai parlé des gens réservés ou expansifs, ce qui est notre tendance naturelle. On peut être aussi très normalement introverti ou extraverti, peu importe, ça n'est bien sûr pas pathologique, la timidité c'est autre chose.
Donc votre livre ne s'adresse pas qu'aux timides? Non. Parce que derrière, il y a la timidité, donc je n'ai pas osé l'acheter, parce que je ne me sens pas timide, mais je me sens réservée.
Tout à fait.
Et donc je n'ai pas osé le...
L'histoire de ce livre, c'est que au début, j'ai écrit dans les années, je ne sais plus, 70, un livre sur la timidité, qui a très bien marché longtemps. Après, mon éditeur, j'ai eu un mal de chien à le faire arrêter. Et lorsque j'ai enfin récupéré les droits, j'ai voulu le réécrire parce qu'on me l'a redemandé. Donc il a eu plusieurs versions parce qu'on a constaté que le monde évoluait avec tout cela, ce qui était intéressant. Et là, mon éditeur a voulu encore le changer avec parce qu'il avait donné un titre, mais le livre est complètement refondu, c'est un nouveau livre. Le précédent s'appelait Timide, moi plus jamais, ce qui n'était pas le titre que je voulais, c'était le titre que mon éditeur avait fixé. Mon titre, c'était Retrouver la confiance en soi. Donc Timide, moi plus jamais, c'était percutant, et on avait constaté avec surprise que les personnes timides n'osaient pas venir l'acheter, et que les gens les achetaient pour eux. Ça, on l'avait vu sur les salons, c'était assez drôle, on disait j'ai un copain, j'ai un ami, et bon, ça se voit très bien. Donc voilà, mais en fait, c'est retrouver la confiance en soi, c'est mon thème. Réapprendre à s'habiter, apprendre l'estime de soi, juste apprendre à être soi-même. C'est ça le but de l'aventure de ce livre. J'en ai écrit un autre qui s'appelle Déverrouiller ses blocages, qui était une suite avec beaucoup plus de trucs. Il y a aussi des circonstances dans la vie où on a besoin de petits trucs, savoir respirer, pour justement déverrouiller quelque chose qui, sur un moment donné, va vous surprendre et risque de vous prendre de court. Donc, on peut faire le travail sur soi en profondeur, mais les petits trucs, c'est jamais inutile pour aider à passer un cap un petit peu difficile. Et puis, j'avais écrit un autre livre en complément, c'est en taille décroissante, qui s'appelait « Croire en soi », parce que j'avais constaté que ça manquait. Et voilà. Donc, ça, c'était un petit peu le parcours. Vous voyez, dans cette dynamique-là, j'en ai fait une série de trois qui se suivent. Donc oui, la timidité, c'est différent.
Donc la réserve n'empêche pas de la confiance en soi?
Évidemment non. Évidemment non. Mais ça, on le sent très bien avec soi-même. Hein. Quand on est bien dans sa peau, on est bien seul sur sa colline, on est bien dans une foule, on est bien dans une situation professionnelle où on doit prendre la parole, même si on n'a pas l'habitude, et même si on a une petite sensation de blocage naturel quand ce n'est pas quelque chose d'habituel, on arrive très vite à le dépasser. Quand on est vraiment timide, c'est-à-dire avec des inhibitions qui vous bloquent dans la vie, eh bien là, il y a des points où on n'arrive pas à aller. C'est l'enfant que vous envoyez chez la voisine pour chercher du sel et qui, alors qu'il connaît parfaitement cette voisine, va s'arrêter devant la porte et ne va pas oser frapper et va revenir en disant « elle n'est pas là ». Ça s'appelle une inhibition, un blocage. Là, c'est un enfant timide. Dire simplement « moi, j'aime pas trop, je préfère faire du sport individuel que du handball », ben non, ça peut être de la réserve ou une tendance différente, etc. Donc là, tout est la mesure. Est-ce que ce que je ressens m'empêche de vivre? Est-ce que la façon dont je me sens avec moi-même fait que je vis totalement dans le regard de l'autre? Parce que là, on peut en arriver à des choses quand même intéressantes, du genre, lorsqu'on pousse l'affaire un peu plus loin, j'essaie d'être ce que je pense que l'autre attend que je sois. Alors, pour déverrouiller cet ensemble de nœuds gordiens, parfois effectivement il faut couper carrément, hein, c'est la bonne solution, à la saleté, c'est la thérapie, mais si on arrive à tirer aussi le fil et qu'on se rend compte de ça, en général une mauvaise surprise, quand on commence à le tirer, c'est je suis où, moi, et je suis qui, moi, et où est-ce que je suis au milieu de tout cet entremets-là. Donc si vous voulez, ça sont les petites choses. Or il est assez fréquent à notre époque de rencontrer des gens qui essaient surtout de s'adapter à ce qu'on attend d'eux, et ou surtout de ce qu'ils imaginent qu'on s'attend d'eux. Parce que parfois, on va questionner un petit peu la famille, l'entourage, et on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout. C'est encore une idée, une construction mentale qui a été projetée et qui complique encore un peu plus la relation avec les autres. Accepter d'être soi-même, c'est accepter de se tromper. C'est accepter, ce sont aussi des petits tests simples à faire. Comment je réagis devant un échec? Comment est-ce que je réagis par rapport à moi-même quand je me rends compte que je me suis trompée? Comment est-ce que je réagis quand je me rends compte que j'ai dit une bêtise? Si vous avez envie d'être mis pieds sous terre et que vous ne voulez plus rencontrer de votre vie les gens devant lesquels vous avez sorti cette bourde, c'est qu'il y a un problème. Si vous arrivez à rire de vous-même et à dire alors, c'est la grande question, pas trop de soucis. Vous voyez, il y a des choses assez simples qui nous permettent de voir où est vraiment le problème. Ça, ce sont des approches que l'on peut utiliser personnellement. C'est ce genre de questions. Et alors, et qu'est-ce que... Et ça, poser ces petits points-là, simplement, les passer en vue sur des situations simples. N'allez pas, parce que vous avez été invité à un jeu télévisé et que vous avez été complètement bloqué, vous dire « je suis timide » parce que vous avez été complètement bloqué. Ça, c'est autre chose. C'est une situation exceptionnelle, quelque chose à laquelle on est, à quoi on n'est pas préparé. Donc là, on exclut du champ d'approche immédiate ce genre de situation. L'intérêt, c'est de regarder ce qui se passe dans la vie de tous les jours, ce qui se passe au quotidien, dans les situations simples. Et c'est assez révélateur. Dernière question courte. Oui.
Voilà, j'ai été interpellée par le mot « se centrer ». Et donc, moi, j'ai pris conscience que j'avais un problème de dispersion de mon énergie, probablement. C'est-à-dire que... Bon, ben, par exemple, j'ai beaucoup de mal à ranger mes papiers et j'ai des centres d'intérêt multiples. J'ai un peu de mal donc à canaliser mon énergie, mais je pense que là, il y a une réponse.
Ça prouve que vous en avez, c'est ça le côté intéressant.
Mais donc pour oui, tout à fait. Et donc je voulais savoir dans une démarche d'auto-guérison personnelle. Quel conseil vous pourriez donner dans cette approche d'apprendre à se centrer?
C'est un vaste sujet. Je pense que j'en ai parlé tout au long de cette conférence. C'est déjà savoir qui je suis. C'est l'histoire de ma petite poupée là, qui risque de basculer. Encore faut-il savoir où est le centre et faut-il savoir quel est le point qui va manquer. Donc là, on est obligé déjà d'un peu s'auto-analyser ou de s'analyser de façon hétérogène avec quelqu'un d'autre pour savoir ce que l'on va centrer. Donc, si vous voulez, il est dur de répondre de cette façon-là. Et le fait d'être un petit peu brouillon dans sa vie n'est pas non plus une preuve de non-centrage, ça n'a rien à voir, ça fait partie de manifestations extérieures qui sont très différentes. Bon, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il y a une vieille image. Vous savez, les temples antiques, puisque j'ai reparlé de l'Antiquité tout à l'heure, étaient construits sur des piliers, des colonnes qui étaient toutes différentes. C'était leur spécificité, ils avaient des décors différents, il y avait des feuilles de ceci, des feuilles de cela, des animaux, des rainures, tout ce que vous voulez. Or, l'intérêt, c'est qu'elles étaient toutes droites, debout, et que de cette façon, elle pouvait soutenir l'édifice. Imaginez ce que ça aurait été si une des colonnes avait été mise en travers. En général, ça peut symboliser les femmes dans certains cas, lorsqu'il y a une envie de soumission et du partenaire, une envie au contraire d'obtenir cela. Bon, ben, le monde s'écroule. Donc ça, c'est une image rapide, mais en fait, là, qui donne aussi une image du centrage. Tout est différent. Chacun se manifeste au travers de ce qu'il est, à condition de le reconnaître. C'est pas parce que la feuille d'à côté, d'acanthe, qui décore la colonne d'à côté me plaît drôlement, que je suis obligé de m'en mettre aussi. Il faut plutôt chercher quel est mon décor à moi, qui m'appartient, qui me représente et me symbolise. Ça, c'est une image symbolique. Mais du moment où je suis debout, où j'assume cela, où je ne trouve pas que c'est toujours mieux ailleurs, mais j'essaie de voir ce qui en moi est spécifique, intéressant, et qui va me permettre de me manifester dans ce monde, ben, je dirais que le temple du monde peut tenir debout. C'est une petite image sur le centrage. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup de votre écoute. Je suis là toute la journée au stand de Jouvence. Voilà, aux dédicaces. Aux dédicaces, si ça vous intéresse, pour discuter, tout ce que vous voulez. Bonne journée à vous tous.
Merci, madame.